France Inter. 7-10.
Jeudi 25 avril, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, c'est l'un des otages les plus connus en Israël.
Le Hamas a publié hier la vidéo de ce jeune homme de 23 ans provoquant une manifestation sous les fenêtres de Benjamin Netanyahou. Nous sommes à Jérusalem dès le début du journal. Journée noire dans le ciel français, des centaines de vols annulés à cause de la grève des contrôleurs. Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe ce matin, quelques semaines des élections européennes. Et puis Ariane 6, debout à Kourou et encore beaucoup de tests avant le lancement inaugural.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Je reçois José Bové, ancien député européen, et Bully Lanners, l'acteur qui joue José Bové au cinéma dans une sorte de thriller ultra réaliste. Le scandale des lobbies du tabac infiltré jusqu'au plus haut de la Commission européenne. L'affaire avait éclaté en 2013. Bové Lanners, concours de moustache à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec Elisabeth Badinter pour son livre « Messieurs, encore un effort » paru chez Flammarion Plomb. Et à 9h20, Léa Salamé reçoit le comédien réalisateur Artus pour son film « Un petit truc en plus ».
France Inter.
C'est la première fois depuis plus de 200 jours qu'ils entendent le son de sa voix. Les parents de ce jeune homme, otage du Hamas depuis le 7 octobre, il avait été enlevé lors du festival de musique. Hier, le groupe terroriste a diffusé une vidéo dans laquelle il demande, évidemment sous la contrainte, à son gouvernement de tout faire pour le libérer. Ce n'est pas la première vidéo d'otage diffusée par les groupes armés palestiniens. Elle vise bien sûr à faire pression sur Israël pour une trêve. Et elle a provoqué hier la fureur de dizaines de manifestants qui sont spontanément descendu dans la rue hier soir. Notre correspondant Thibault Lefebvre était sur place.
À Jérusalem, son visage souriant, juvénile, photographié de trois quarts, est sur tous les murs et notamment ceux de son bar préféré, le Syrah, le repère de la jeunesse de gauche en plein centre-ville. Et c'est cette jeunesse qui est sortie hier soir pour d'abord manifester devant la résidence de Benjamin Netanyahou et puis interpeller le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui sortait de la grande synagogue. Peu de temps avant, les parents de Hersh Goldberg-Pauline, Rachel et John, ont pris la parole dans une vidéo tournée chez eux pour demander au plus vite une trêve.
Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel. Il s'adresse à tous les leaders engagés dans les négociations. Le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, le Hamas et Israël. Soyez courageux, saisissez cette opportunité et trouvez un accord pour que nous puissions retrouver nos proches et mettre fin aux souffrances dans la région.
La maman, Rachel, a le dernier mot.
And Hersh, if you can hear this,
et demande sobrement à son fils et avec beaucoup de dignité de rester fort et de survivre.
Stay strong, survive.
Le cabinet de guerre israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter des négociations et tenter de sortir de l'impasse.
Selon Israël, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, 34 seraient morts. Israël qui a lancé hier une action sur le sud du Liban et qui se prépare pour une opération à Rafah, alors que la Maison Blanche a demandé hier une enquête transparente sur les fosses communes découvertes dans deux hôpitaux de Gaza. Washington qui va envoyer dans les prochaines heures une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, en particulier des missiles de longue portée pour contrer ceux utilisés par la Russie et fournis par la Corée du Nord. L'Ukraine qui a décidé hier de ne plus délivrer de passeports à l'étranger aux hommes âgés de 18 à 60 ans, alors que le pays a cruellement besoin de soldats.
Il est 7h04, des centaines de milliers de passagers, Anaïs, dans le flou ce matin.
Oui, dans les aéroports français et européens, des milliers de vols sont annulés ou retardés. Trafic aérien très perturbé malgré la levée in extremis hier du préavis de grève d'un syndicat de contrôleurs aériens français. L'un des trois autres maintient, lui, sa grève. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Vous êtes à l'aéroport d'Orly. 3 vols sur 4 supprimés, du jamais vu depuis une vingtaine d'années.
Oui, c'est la déception sur le visage de Shana, 20 ans, petite valise noire à la main. Elle avait un vol à 6h du matin pour la Crète, mais son vol ne décollera pas.
Il a été annulé, donc on attend. Là, je suis en train de boire pour un vol à Lyon, mais ça fait du trajet. J'ai aucune garantie qu'il ne soit pas annulé aussi, donc on attend d'avoir un peu plus d'infos.
Vous l'avez su quand, comment
que
vous...
En arrivant ici. Au début, je pensais que c'était une blague. Et puis après, j'ai vu la tête de la dame. J'ai dit non, c'est pas une blague.
Elle attend donc, espérant trouver une solution B pour sauver ses vacances, mais a du mal à digérer.
Ça fout un peu les nerfs quand même dès le matin. On n'a pas dormi de la nuit. On arrive, on est content de prendre notre avion et puis annulé.
Et là, le prochain vol potentiel que vous pourriez prendre, ce serait quoi?
Le 27, dans 2 jours.
Là, Il y aurait le vol pour Lyon, c'est ça que vous pourriez prendre?
C'est ça, à 15h40. Sous réserve qu'il ne soit pas annulé aussi, parce que j'ai aucune garantie non plus.
La galère, quoi.
La galère.
Et la journée semble pourtant normale ici au Terminal 3. Sur le tableau d'affichage, seuls les vols maintenus apparaissent. Mais des passagers comme Shana, l'agent d'escale Willen, en a vu défiler une bonne vingtaine en une heure.
C'est pas la première et je pense pas que ce soit la dernière de la journée. Voilà, on n'a pas le choix. On peut que leur annoncer la mauvaise nouvelle.
Mauvaise nouvelle d'autant plus surprenante que la direction et les syndicats se sont mis d'accord pour reprendre les négociations sur des revalorisations salariales.
Mariam El Kurdi en direct d'Orly avec Marc Garvenès. 2 millions de bouteilles de Perrier détruites par Nestlé. Le groupe propriétaire de la marque d'eau gazeuse y a découvert des bactéries d'origine fécale. Selon Nestlé, c'est à cause d'une contamination ponctuelle suite aux fortes pluies du 10 mars dans la région de Nîmes. Après Béziers, Nice, après Pointe-à-Pitre, voilà maintenant la commune de Pennemiraden près de Marseille, qui impose un couvre-feu pour les moins de 13 ans à partir de ce soir, de 23h à 6h et jusqu'au 31 août, instauré par le maire d'hiver droite pour appliquer, dit-il, le sursaut d'autorité prôné par Gabriel Attal. Le Premier ministre en retrait pour l'instant dans la campagne des européennes. À 6 semaines du scrutin, c'est le chef de l'État qui entre dans la bataille avec un discours d'une heure sur l'Europe. C'est ce matin à 11h à la Sorbonne devant les ambassadeurs des 26 autres États membres. Quel regard portent d'ailleurs les eurodéputés des pays voisins sur le bilan d'Emmanuel Macron, et Angélique Bouin leur a posé la question.
Au Parlement, l'engagement européen du président français est souvent salué, y compris en dehors de sa famille politique. Maria Marquez est portugaise et socialiste.
Quelquefois, je ne suis pas d'accord, mais de toute façon, je pense qu'il a contribué positivement pour l'Europe.
Même analyse chez Andreas Schwab, membre de la droite allemande, mais il regrette tout de même son manque de pouvoir de conviction auprès des Français, dit-il, et de ses partenaires.
Macron a toujours démontré une très grande ambition européenne. Et malheureusement, avec M. Scholz, c'était trop difficile. Il n'a pas pu convaincre.
Chez les Verts, l'engagement écologique du chef de l'État avait séduit en début de mandat l'Allemande Anna de Parnay, mais au fil du temps, il l'a beaucoup déçu.
On a un peu désenchanté et on a vu aussi utiliser l'Europe pour des fins complètement françaises. Sur le nucléaire, ça s'est senti dans toutes les discussions. C'était difficile.
À l'extrême droite, beaucoup associent le président Macron au bilan de la Commission. Gérald Falman, c'est belge, et siège avec les élus du RN.
On ne peut pas continuer comme ça, dans la voie globaliste, éco-fanatique, etc. Les Français doivent se débarrasser de Macron. Nous allons essayer de nous débarrasser de von der Leyen.
Ces eurodéputés n'écouteront pas le discours d'Emmanuel Macron. Ils seront en plénière pour la dernière séance de vote de la mandature.
Angélique Bouin à Strasbourg pour Inter. Eux ont rejoint l'Europe en 1986. Les Portugais, qui 3 ans après la révolution des œillets, déposaient officiellement une demande d'adhésion à l'Union européenne. Ils célèbrent aujourd'hui les 50 ans de cette révolution. D'abord coup d'état militaire, puis rapidement mouvement populaire contre le régime de Salazar. Le 25 avril 1974, le pays mettait fin pacifiquement à des décennies de dictature et ouvrait la voie à l'indépendance de ses colonies. Encore aujourd'hui, qui n'a pas la chair de poule en entendant les notes de la chanson de Zeca Fons au coup d'envoi de cette révolution, faite par les capitaines de l'armée. Julie Pietri a rencontré l'un d'entre eux aujourd'hui à la retraite à Porto.
Castro Carneiro avait 28 ans à l'époque et aujourd'hui, 50 ans après donc, il conserve toujours des œillets dans son bureau.
Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je peux vous montrer.
Il exhume des vieilles photos, rappelle le contexte, les guerres coloniales au Mozambique, en Angola, où la colère des capitaines portugais mal payés, usés par les combats, grandissait. C'est là-bas, loin de Porto, qu'il participe à ses premières réunions.
Je pensais que tout allait fonctionner. On avait l'habitude. J'ai planifié des centaines d'opérations en Angola. Moi, ma mission, c'était de capturer le chef d'état-major de la région. On devait s'assurer que les militaires de Porto ne marcheraient pas sur Lisbonne. C'est ce qu'on a fait et ça a été bien fait.
Le 24, il sillonne le nord du pays pour distribuer lui-même les plans aux militaires. Et vers minuit, une chanson très attendue passe à la radio. C'est le signal, la révolution commence. Ce jour-là, sentiment de joie, de liberté forcément, mais il encaisse aussi la colère de son père, catholique fervent, et admirateur de Salazar. Aujourd'hui, l'ex-capitaine observe avec inquiétude la progression de l'extrême droite au Portugal.
En Espagne, le Premier ministre socialiste a pris hier soir tout le monde par surprise. Pedro Sanchez dit réfléchir à une éventuelle démission à la suite de l'ouverture d'une enquête pour corruption contre sa femme. Il y voit une campagne de déstabilisation.
Il est 7h10, la crainte de la sécheresse fait son retour en Corse.
Grave déficit de pluie sur le Cap Corse au nord de Bastia, si bien que les pouvoirs publics ont décidé de mettre en service dès cette semaine une usine de dessalement des eaux de la Méditerranée pour faire des réserves d'eau potable. Démarrer l'usine dès le mois d'avril, c'est du jamais vu sur l'île. Reportage William Delesseux.
Un réseau de tuyaux noirs parcourt la digue jusqu'à ses containers bleus sur le port de Machinaggio. Il renferme des appareils de dessalement par osmose inverse. Karim Kenzi, fondateur de l'entreprise Nomado.
En 2022, quand on les a installés, l'idée c'était qu'ils soient sur place pendant 3 mois par an, 3-4 mois, qu'ils soient démobilisés et remobilisés à chaque fois qu'on en a besoin. La commune a décidé de les maintenir en bord de mer, de manière à pouvoir les démarrer assez rapidement.
Coût total 1 300 000 euros à la sortie de l'eau salée rejetée dans le port et de l'eau potable pour remplir le réservoir en amont de Rogliano et Tomino. Ce réservoir à moitié vide. Il n'y avait plus le choix, insiste le maire de Tomino, François Orlandi.
Ça a été la seule réponse possible pour produire de l'eau et alimenter la population lorsque les sources sont toutes taries et que les forages sont maintenant au niveau le plus bas que l'on a jamais constaté. Et les nappes phréatiques, donc les eaux souterraines, qui par définition étaient abondantes, en tout cas existantes, aujourd'hui ne permettent plus une exploitation normale.
Avec pour preuve la rivière qui délimite sa commune. On n'en devine aujourd'hui que les contours, l'embouchure sur la plage de Galais a même disparu. Machinaggio, William Delesseux, France Inter.
À Kourou, la nouvelle Ariane 6 mise debout hier. Étape importante et inédite, car jusqu'à présent, on assemblait Ariane 5 à la verticale, ce qui coûtait beaucoup plus cher. L'ambition, c'est donc de faire baisser les coûts tout en conservant la fiabilité de la fusée européenne. Mais d'ici au lancement de cette nouvelle fusée, il y a encore beaucoup à faire, Sophie Bécherel.
La voilà debout, du moins le corps central, c'est-à-dire les deux étages de la fusée. Aujourd'hui et demain seront ajoutés les deux propulseurs à poudre latéraux, puis plus tard, la coiffe, sous laquelle 15 petits satellites prendront place. Entre-temps, branchement des circuits électriques, des fluides, des tests, encore des tests. Ça dure depuis 2 ans, mais c'est un choix délibéré, insiste Franck Thuiban, responsable des programmes civils chez Ariane Group. L'Europe cherche à minimiser les risques quand Elon Musk casse et capitalise sur ses erreurs.
L'Europe a une stratégie d'ordre géopolitique. Nous ne sommes pas uniquement dans une logique économique. Et donc, effectivement, l'Europe cherche le plus possible à faire bon du premier coup, à prendre toutes les précautions nécessaires pour que, au moment de lancer, tout se passe bien.
Du côté des équipes, on est serein, même si selon les statistiques, il y a un risque sur deux que la première mission échoue. Frédéric Fachin, l'un des responsables des opérations du vol inaugural.
Ce qu'on a pu voir finalement de ces 1,5 d'essais combinés, avec les essais de tir à feu qu'on a réalisés l'année dernière, on a un niveau de confiance qui est très très élevé. Après, c'est un nouveau lanceur. Donc forcément, on reste prudent.
En attendant la date historique du premier tir, le carnet de commandes d'Ariane 6 est plein. Satellites scientifiques, de météo, de télécommunications et même la constellation de Jeff Bezos. Cette année, il n'y aura que 2 tirs, mais d'ici 2 ans, 9 par an.
Sophie Bécherel à Kourou pour France Inter. Lancement prévu entre le 15 juin et le 31 juillet. Puis le PSG doit encore attendre avant d'être sacré malgré sa large victoire 4-1 contre Lorient hier, car Monaco s'est aussi imposé contre Lille. Le PSG pourrait être champion dès samedi contre Le Havre.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le Zoom. Aujourd'hui dans le sud de l'Italie où la terre tremble depuis des mois.